Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 22, les versets 6 à 21. Il me dit ensuite, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Il me dit aussi, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or, voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors, seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui l'entend dise aussi, viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainteté des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Oui, le Seigneur Jésus, oui, Seigneur Jésus, viens. La grâce de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors, on continue ce qu'on avait débuté la semaine dernière. On rappelle que le titre que j'avais donné à la conclusion de cette partie du chapitre 22, donc du verset 6 à 21, je l'avais intitulé « Le Seigneur Jésus dit, je viens bientôt ». Il y avait cinq exhortations et une bénédiction. Donc, on avait commencé un peu la semaine dernière à regarder les premières exhortations. On avait regardé la première et la deuxième et une partie de la troisième. Donc, on se rappelle que la première exhortation, c'était dans le verset 6 et 7, et on se souvient qu'on avait donné comme un résumé des versets qu'on étudie. En une petite phrase qui donne un peu l'idée principale, un sommaire un peu du passage. Alors, la première exhortation, c'était vraiment l'idée « Croyez en ma promesse scripturaire », versets 6 et 7. La deuxième exhortation, c'était « Après tout, soyez émerveillés et adorez le vrai Dieu ». Autrement dit, on avait rappelé que l'apôtre Jean avait reçu une multitude de visions qui étaient extrêmement intéressantes et qui l'avaient submergé. Bien entendu, ce que ça a eu pour effet, c'est qu'il y a eu le réflexe de vouloir adorer la créature au lieu du vrai Dieu. Alors vraiment, la pensée principale du verset 8 à 10, c'est vraiment « Soyez émerveillés et adorez le vrai Dieu. » Non pas ce que Jean a voulu faire, mais bien l'ange l'a repris, lui a dit « Adore Dieu. » Et on était rendu à la troisième exhortation, dont l'idée principale se résumait ainsi, rechercher la sainteté, dans les versets 11 et 12. Donc, on avait vu rechercher la sainteté, la chose que le Seigneur, si on relit les versets 11 et 12, on avait fait une petite partie, mais on va la réviser très rapidement. Versets 11 et 12, ça dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Alors, on avait vu que dans le verset 11, la principale idée, c'était le fait que ceux qui ne recherchent pas la sainteté, Dieu va leur envoyer une punition qui est celle de l'endurcissement. L'endurcissement, on avait parlé des apostats. Les apostats, ce sont des personnes qui ont déjà témoigné, appartenir à Christ, qui ont prétendu avoir la foi, qui ont parfois suivi pendant des années, des fois dans des églises locales, mais qui n'avaient pas reçu la véritable régénération de Dieu. Bien entendu, tôt ou tard, ils vont abandonner. Et le Seigneur est en train de nous dire ici que celui qui est injuste et dont la vie ne reflète pas l'authenticité de sa foi, la punition que le Seigneur lui envoie, c'est il le laisse aller à son péché. On avait vu la semaine dernière que l'ordre est donné aux méchants de commettre davantage de mal en guise de punition pour leur apostasie. On rappelle que l'apostasie, c'est l'abandon volontaire d'une foi professée. On avait regardé Romains, chapitre 1, versets 28 à 32, où le Seigneur, il nous dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Et là, il donne toute une série de péchés que les gens font. Et le Seigneur nous dit que non, leur punition, c'est que le Seigneur les laisse aller dans leurs péchés. Et il mentionne aussi dans ce passage-là que bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, et qu'ils reconnaissent que ceux qui les font sont dignes de mort, mais eux-mêmes commettent les mêmes péchés. Donc, c'est comme ça dit dans la deuxième partie du chapitre du verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et on avait regardé aussi le chapitre 12 de Daniel, au verset 10, alors qu'il nous dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, on était rendu là. Alors, la première idée du verset 11 et 12, c'était vraiment le fait de ne pas rechercher la sainteté va provoquer l'endurcissement des apostats. La deuxième idée, c'est que la recherche de sainteté va révéler la rétribution qui s'y rattache au verset 12. Alors on reprend la lecture du verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors bien entendu, à première vue, on pourrait penser que ce passage-là enseigne le salut par les œuvres. Mais c'est nullement le cas. La rétribution dont il est fait mention dans le verset 12, c'est une rétribution qui est une allusion directe à deux textes du livre d'Ésaïe. Le premier, c'est Ésaïe, chapitre 40, verset 10, qui nous dit, Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Donc ça, c'était le premier texte d'Ésaïe. Le deuxième, c'est Ésaïe 62, verset 11. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » Alors, on pourrait dire qu'il y a deux façons de comprendre l'expression « pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre ». La première, ça serait de regarder la chose du point de vue de la perspective de l'œuvre de Dieu. Donc, si Dieu a sauvé une personne, normalement, tout cela devrait se refléter dans ses œuvres. Et si la personne qui n'a pas vraiment reçu la régénération de Dieu, sa vie va témoigner de la non-authenticité de sa foi. Donc, lui, ça va être un jugement. Donc, la façon de la voir pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre, c'est vraiment pour rendre à chacun selon l'œuvre de Dieu. Si c'est l'œuvre de rédemption, ça va être quelque chose. Si c'est l'œuvre de jugement, ça va être autre chose. Et la deuxième façon de le voir, c'est l'idée de rendre à chacun selon son œuvre, l'œuvre de chacun. Autrement dit, pour les non-chrétiens, c'est des mauvaises œuvres. Puis pour les chrétiens, des bonnes œuvres qui vont montrer qu'ils ont été rachetés de leur péché par le sang de Jésus. Donc on est rendu à la quatrième exhortation, qui pourrait se résumer par la phrase « Je promets le bonheur, mais menace du rejet », versets 13 à 17. Alors on relit le passage de 13 à 17. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. Quand on regarde le verset 13, le Seigneur nous parle d'un titre qu'il a, qu'il se nomme lui-même « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Alors ici, le Seigneur veut nous montrer qu'il contrôle de façon souveraine et absolue tous les événements terrestres. Et il y a plusieurs versets du livre d'Ésaïe qui illustrent cette idée et ses titres. On va en regarder trois. Ésaïe, chapitre 43, verset 20. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi, et il n'y en aura point après moi. » Quand on parle d'alpha, oméga, il n'y en a pas eu avant, il n'y en aura pas après. Ésaïe, chapitre 44, verset 6. « Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. » C'est des versets qui sont très significatif et très important, particulièrement en cette période d'abandon de la foi où aujourd'hui on prétend que peu importe la religion que vous avez, ça peut vous mener à Dieu. Alors que ici, quand on dit qu'il y a, le Seigneur affirme avec très catégoriquement, je suis le premier et le dernier, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Alors, il y en a dans les religions. Aujourd'hui, l'écuménisme prétend que plusieurs chemins mènent à Dieu, alors que les Écritures sont fermes là-dessus, que le salut ne vient qu'en Jésus-Christ, et le salut n'est possible qu'à cause de lui et de la foi en lui. Ésaïe, chapitre 48, verset 12. Écoute-moi, ô Jacob, Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et je suis aussi le dernier. Alors, c'est des versets importants pour nous rappeler que, dans le fond, quand le Seigneur dit « Je suis le premier, le dernier », l'alpha et l'oméga, c'est très important de voir qu'il est unique. Alors, il y a un passage aussi du livre de l'Épître aux Romains qui est particulièrement riche pour exprimer cette idée. J'avoue que c'est, je dirais, mon passage préféré de toutes les Écritures, parce que c'est d'une profondeur et d'une richesse. Et il faut se rappeler que ces versets-là, ça se trouve à la fin du livre de Romains, où Paul, après avoir exposé et expliqué le salut en Jésus-Christ, et il est dans une période de grande exaltation, et là, il loue le Seigneur de l'ensemble des choses qui ont été mentionnées et qui concernent le salut en Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit, et je trouve que c'est un passage qu'on devrait tous apprendre par cœur et méditer, et méditer, et méditer. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? Et j'aime particulièrement le verset 36, qui est une profondeur inouïe, car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Quand on dit toutes choses sont de lui, toutes choses, c'est vraiment universel. De lui, la source, par lui, le moyen, et pour lui, le but ultime. C'est d'une profondeur, ce verset-là, c'est d'une beauté absolue. Alors, ces paroles fondent la certitude que Dieu est le maître de l'histoire. Tous ces titres sont appliqués à Jésus-Christ pour souligner sa déité ou sa divinité. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder aussi les versets 14 et 15, où le Seigneur veut qu'on voit qu'il va y avoir des inclus et des exclus quant au bonheur éternel. Alors, on va regarder les inclus d'abord, et ensuite, on va regarder la liste des exclus que le Seigneur nous donne. Donc, les inclus. Le verset 14 nous dit: Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, toute personne porte un vêtement sale, qui a été sali par ses pensées, sali par ses paroles, sali par ses actions, sali par ses omissions et sali aussi par ses fautes secrètes, donc les péchés que l'on commet sans même se rendre compte qu'on les a commis, ce qui n'enlève rien à leur gravité. Alors, pour laver sa robe, il faut avoir recours au sang de Jésus. Rappelons-nous un passage qu'on a déjà étudié un peu précédemment dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 7, verset 14. Puis, un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils? Et je lui dis: Seigneur, tu le sais. Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leur robe et ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. » Quand même un peu curieux ici qu'on parle de laver une robe dans le sang. Alors normalement, ça rougirait. Et ici, on parle de blanchir dans le sang. Alors bien entendu, c'est quelque chose de symbolique qui parle du fait que les péchés pour les élus ont été payés par Jésus-Christ. Quand on parle dans les Écritures que les personnes régénérées, les personnes qui ont reçu la grâce souveraine de Dieu, ils ont revêtu la robe de justice de Christ. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Lorsque Christ est venu sur la terre, il a à la perfection obéi au commandement de Dieu. Il a à la perfection obéi à toute la volonté de Dieu dans tous les moindres détails. Il n'a jamais manqué une seule fois. C'est pour ça qu'on parle d'une robe de justice, parce que lui, tout ce qu'il a fait sur la terre était rempli d'obéissance, était rempli de justice dans la définition que Dieu donne de la justice. Alors, cette purification des vêtements ne signifie pas qu'on se lave soi-même ou qu'on se sauve soi-même, mais qu'on se laisse purifier par le sang du Christ. Par la grâce de Dieu, il a le droit de venir à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Maintenant, quand on regarde le verset 15, c'est un peu un verset qui peut nous sembler extrêmement dur, mais le Seigneur est en train de dire que le ciel n'est pas pour tous. Alors, ceux qui sont des pécheurs endurcis, alors le Seigneur vient ici nous dire qui ne sera pas, qui va être exclu. Alors ici, il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ceux qui ont les notes, vous pouvez aller lire l'article que j'ai mis en annexe sur les chiens, que j'ai pris dans un dictionnaire biblique. C'est important parce que des fois, on peut regarder ça au premier degré, les chiens. Ça veut-tu dire qu'au ciel, il n'y aura pas de chiens? Je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire. Les chiens, dans les Écritures, il y a la pire insulte que tu pouvais faire à un oriental, à une personne de l'Orient. C'était le traiter de chien. Parce que les chiens, si vous allez lire l'article, ce matin, on ne le lira pas complet, mais c'est un article intéressant qui vient du dictionnaire biblique. Et quelque part, ça nous donne comment les chiens étaient perçus dans l'Ancien Testament. D'abord, c'était des charognards. Il y a des passages des Écritures où on parle des chiens en faisant référence aussi aux sodomites et aux prostituées mâles dans le culte de Baal. Alors, les chiens, ici, quand il dit dehors les chiens, c'est-à-dire qu'en dehors de la ville sainte se trouvent des personnes comparables à des chiens par leur souillure, leur impudence et leur voracité, comme le sont les persécuteurs, les hérétiques et les apostats. Alors, j'ai mis quelques passages que vous irez lire, importants. Matthieu chapitre 7, verset 6, Philippiens chapitre 3, verset 2, et 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Et bien entendu, je l'ai déjà mentionné, mais je le répète, certains auteurs croient que le mot « chien » réfère aussi aux sodomites et aux prostituées mâles dans le culte de Baal, et on peut les voir la référence à cette affirmation-là dans Deutéronome, chapitre 23, verset 18. Alors, c'est clair, le premier mot qui est mentionné dans les exclus, c'est les chiens. Les enchanteurs, ça fait probablement référence aux drogues et à toutes les formes d'occultisme et de magie. Alors, on pourrait aller en détail là-dedans, mais dans le fond, c'est pas important qu'on le fasse ce matin. C'est plutôt de comprendre la catégorie de personnes. Et la troisième catégorie de personnes qui est mentionnée, c'est les impudiques. Alors, les impudiques, c'est les péchés et les perversions de nature sexuelle. Alors, bien entendu, à l'intérieur de ça, il y a l'homosexualité masculine et féminine, la bestialité, la pédophilie, le sadomasochisme, etc., etc. Alors, les péchés de nature, les péchés et les perversions de nature sexuelle. On parle aussi des meurtriers. Alors, les meurtriers, on sait tous qu'est-ce que c'est. Je pense qu'ici, ça inclut ceux qui pratiquent la violence extrême. Et ce sont en réalité des imitateurs de Caïn. Alors, on va aller regarder deux versets qui nous parlent des meurtriers. Nombre, chapitre 35, verset 33. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandue que le sang de celui qui l'aura répandu. Autrement dit, il n'y a aucune expiation possible que par le fait que celui qui a fait couler le sang, lui-même, son sang devrait être répandu. Et Genèse chapitre 4, verset 11, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alors les meurtriers vont être exclus de Jérusalem céleste. Maintenant aussi, on mentionne les idolâtres. Pour les idolâtres aussi, je vous ai mis en annexe un article qui vient du dictionnaire biblique concernant l'idolâtrie. Très intéressant, allez le lire, c'est développé un peu plus qu'on peut le faire dans un sermon, sinon le sermon serait très long. Alors, l'idolâtrie, c'est le culte des faux dieux. Et c'est aussi le culte idolâtre du vrai Dieu. Anciennement, dans l'Ancien Testament, on voyait que des fois les Israélites, les Juifs, croyaient adorer le vrai Dieu, mais les moyens qu'ils utilisaient démontraient que c'était plus de l'idolâtrie que de l'adoration du vrai Dieu. Alors, chez les chrétiens, on sait que les Écritures dénoncent l'idolâtrie. Et non seulement les cultes des faux dieux, mais aussi la participation aux fêtes païennes et aux figurées. Les Écritures parlent de l'avarice, donc l'amour de l'argent, la poursuite de l'argent, comme un culte de mammon. Alors, ça serait intéressant que vous preniez le temps d'aller voir les versets que je vous ai mis dans les notes et aussi d'aller lire l'article du dictionnaire biblique sur l'idolâtrie que je vous ai mis en annexe. Alors, pour ceux qui écouteraient, qui n'ont pas les notes, bien, il suffit d'aller sur le site web et de télécharger les notes pour que vous puissiez les lire à votre guise. Et la dernière mention de ceux qui vont être exclus, on parle des menteurs, qui, alors, s'est exprimé de la façon suivante, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Alors, bien entendu, sur la Terre actuellement, il y a énormément de mensonges et il y a toutes sortes de faussetés. Donc, le mensonge, ça comprend tout ce qui est faux sous toutes ses formes. Alors, le Seigneur veut nous faire comprendre que la destinée éternelle de tous ces pécheurs impénitents sera le même que celui du diable, que celui de la bête et que celui du faux prophète. Et cette destinée éternelle-là, c'est d'être plongé vivant dans le lac de feu. pour l'éternité. C'est ce que l'Écriture appelle la seconde mort. Les versets 16 et 17, l'idée principale, c'est vraiment que le Seigneur veut attester des choses et il veut faire aussi une invitation très urgente. Alors, quand on regarde le verset 16, ça dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc, dans la première partie du verset 16, le Seigneur veut attester l'authenticité de ce qui est dit. Alors, Jésus lui-même atteste et certifie que toutes les choses qui sont révélées dans le livre de l'Apocalypse sont vraies. Son témoignage est donné pour être transmis aux églises en vue de leur utilité, de leur consolation et de leur édification. Et c'est important aussi de voir que le Seigneur, il dit, « Ok, il vous rend témoignage de ces choses dans les églises », mais c'est comme s'il y avait une signature à la fin du verset 16, lorsqu'il nous dit, il utilise des titres qui lui sont propres, ses titres, pour confirmer la certitude de ses paroles et aussi de ses actions. Lorsqu'il dit, par exemple, « Je suis le rejeton et la postérité de David ». Ici, il faut se rappeler, quand on lit les Écritures, que c'est rare que les Écritures n'ont pas des références avec d'autres versets ailleurs. Tout est interconnecté. Et ici, le Seigneur veut nous faire prendre conscience de quelque chose. Il combine ici, en parlant du rejeton et la postérité de David, combine deux prophéties de l'Ancien Testament concernant la victoire du roi messianique sur ses ennemis à la fin des temps. Par exemple, dans le livre des Nombres, au chapitre 24, au verset 17, ça dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Une étoile est sortie de Jacob, et un sceptre s'est élevé d'Israël. Il frappera les deux régions de Moab, il détruira tous les enfants du tumulte. » Autre prophétie dans Ésaïe, au chapitre 11, les versets 1 et 2 et le verset 10. On va lire 1 et 2 d'abord. « Mais il sortira un rejeton du tronc d'Ésaïe, et un surgeon naîtra de ses racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. » Verset 10. « En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. » Quand on dit « Jésus est le rejeton », on parle qu'il est la racine et aussi la postérité de David. Il est non seulement après David, parce qu'il est son fils, mais il est aussi avant David, donc sa racine. C'est la cause de l'existence du roi David. Donc, alors, quand il parle, c'est important de comprendre qu'il est à la fois la racine et la postérité de David. Et il termine par un autre titre, l'étoile brillante du matin. Christ est appelé l'étoile du matin, car sa première venue a introduit la lumière du jour de la grâce, après les révélations encore incomplètes de l'Ancien Testament. Tandis que sa deuxième venue inaugurera la pleine clarté du jour glorieux du Seigneur. On a vraiment cette expression-là qui est utilisée dans le Nouveau Testament. aussi dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 19. Nous avons aussi la parole des prophètes, qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendît et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Donc, la première, c'est une attestation, verset 16, c'est l'attestation. Deuxième, verset 17, vraiment une invitation urgente. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui l'entend dise aussi « Viens ». Que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. L'Esprit et l'Épouse sont mentionnés ensemble parce que depuis que le Saint-Esprit a été versé sur l'Église, les deux ne peuvent jamais être séparés. Ils sont intimement liés et ils le resteront jusqu'à la prochaine venue du Seigneur. C'est l'Esprit qui donne à l'Église de croire en Jésus et qui la pousse à prier, et qui prie lui-même avec elle et pour elle. Par exemple, Romains chapitre 8, versets 26 et 27, nous parle de l'Esprit qui prie pour nous et avec nous. Et même aussi, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit qui prie selon Dieu pour les saints. L'Esprit met dans le cœur de l'épouse une prière fervente, la plus courte qui soit, en un seul mot, viens. Ce désir devrait être le désir de tous ceux qui apprennent à connaître le message de ces livres. Tous ceux qui auront été rendus conscients de leurs besoins de l'eau de la vie viendront à Christ pour boire gratuitement. Bien entendu, on peut aller lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, versets 37 et 39, des versets qui nous parlent de cette soif. Verset 37, « Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit, n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. On arrive à la cinquième exhortation. Alors que si on pourrait résumer comme suit dans le verset 18 à 20, « N'ajoutez ou ne retranchez rien à mes paroles. » Alors, on relit les passages, le passage 18 à 20. On va d'abord lire 18 et 19 et on finira par le 20e verset. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la Sainte Cité et les choses qui sont écrites dans ce livre. Donc, dans le verset 18 et 19, c'est vraiment un puissant, un sérieux avertissement. Le Seigneur veut montrer que sa parole écrite est divinement inspirée, soufflée de Dieu, préservée, canonique, ça veut dire que l'ensemble des livres ont été protégés par Dieu et mis à l'existence pour les enfants de Dieu, et qu'en même temps aussi, il veut nous montrer que sa parole est remplie d'autorité. L'avertissement qu'on voit ici, qu'on lit ici, est vraiment solennel. L'ordre du Seigneur ne signifie pas seulement qu'il nous est interdit de trafiquer le texte des Saintes Écritures, mais aussi qu'il nous est commandé de garder toute sa parole dans nos cœurs et dans nos vies. Autrement dit, la parole, elle se doit de faire un effet dans nos vies et ça devrait transparaître dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions et dans notre obéissance et dans les gens autour de nous se devraient de voir et de voir très rapidement que l'on est différent des non-convertis. Alors l'expression « Dieu retranchera sa part du livre de vie » signifie-t-elle que nous pourrions perdre notre salut? La réponse est non. La Bible enseigne clairement qu'un chrétien authentique ne peut pas perdre son salut et que le Seigneur lui donnera la persévérance jusqu'à la fin. Alors, ceux qui se sont prétendus chrétiens, mais qui n'auront jamais eu la vraie foi, celle qui sauve, ne sont pas destinés à la vie éternelle et sont en réalité des adorateurs de la bête. Cette punition semble être bien sévère, mais c'est la parole même de Jésus qui en atteste la vérité. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui, et ça veut dire que la semaine prochaine, il va nous rester le dernier message sur le livre de l'Apocalypse. Alors, on vous dit à la semaine prochaine et que le Seigneur bénisse cette semaine dans vos vies personnelles de tous les jours. Amen.